23h30 en temps universel, même heure à Bamako, vous êtes sur Radio France Internationale.
Édouard Dupenoit.
Samedi 5 avril, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'actualité africaine sur RFI est la disparition ce matin d'une superstar de la musique, Amadou Bagayoko, mort hier à Bamako. Il avait 70 ans, cette moitié du duo Amadou et Mariam, ils avaient conquis la planète en chantant les mariages du dimanche à Bamako. On ouvre ce journal de l'autre côté du continent sur l'île Maurice avec ses manifestations pour la paix. Elles viennent notamment des ressortissants des Chagos. Ils craignent de voir leur archipel devenir le centre névralgique des tensions entre États-Unis et Iran. Yoweri Museveni, dirigeant ougandais, quitte Djouba. Le fervent soutien du président Salva Kiir n'a pas rencontré Riek Machar, vice-président ex-rebelle toujours en résidence surveillée. L'armée congolaise ratisse le Kwilu juste à côté de Kinshasa après des exactions imputées à des rebelles Mobondo. Nous sommes aussi sur les parquets pour le début cet après-midi de la balle, la Basketball Africa League. L'île Maurice craint donc de se retrouver bien malgré elle sur le sentier de la guerre. Manifestation hier à Port-Louis à l'appel d'une vingtaine d'organisations civiles et notamment celle des habitants de l'archipel des Chagos, ce petit chapelet de terre sur lequel Maurice pourrait recouvrer sa souveraineté après des décennies de conflits diplomatiques avec l'ex-puissance coloniale britannique. À l'exception notable de la base de Diego Garcia, poste avancé des États-Unis, poste devenu ultra stratégique parce que les Américains s'en servent comme base arrière pour leurs opérations en mer Rouge, notamment contre les Houthis du Yémen, des groupes soutenus par l'Iran qui menacent désormais de bombarder la zone. Reportage RFI Abdoulaye Rali.
Fermez la base de Diego Garcia, rendez-nous les Chagos. Ces slogans ont résonné à Port-Louis lors d'une marche qui a regroupé 21 organisations mauriciennes. Les manifestants craignent un conflit régional si une guerre éclate entre les États-Unis et l'Iran. Henri Marimoutou, membre du mouvement contre la guerre.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas eu de grande bataille dans l'océan Indien. Mais maintenant, la guerre est à nos portes. La guerre est menée à partir de notre territoire des Chagos, de notre territoire de Diego Garcia.
Base militaire !
Alain Avi, un des organisateurs de la marche, observe que la base de Diego Garcia se prépare à des opérations militaires.
Il y a un bombardier B2 et tout un armada militaire qui peut positionner autour de Diego. Et d'après mon observateur, clairement, ils visent pour amener une attaque l'eau et Moyen-Orient.
L'idée d'un océan Indien pacifique et démilitarisé a mobilisé des jeunes mauriciennes.
Moi c'est Shama, j'ai 28 ans et on est là aujourd'hui parce qu'on ne veut pas de base militaire dans l'océan Indien. L'océan Indien est une zone de paix.
Alors moi c'est Shim, j'ai 31 ans. On ne veut pas de guerre dans nos eaux, on ne veut pas qu'il y ait du sang sur nos mains également.
Cette manifestation intervient alors que Londres a suggéré cette semaine que Donald Trump a approuvé la rétrocession des Chagos à Maurice, à l'exception de la base de Diego Garcia. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Des tensions militaires plus palpables encore au Soudan du Sud où le président ougandais terminait hier 2 jours de visite. Yoweri Museveni qui s'est entretenu avec le président Salva Kiir et d'autres acteurs politiques, mais pas avec le vice-président et ex-rebelle Riek Machar placé en résidence surveillée. Kampala, sur le papier, est garante de l'accord de paix signé il y a 7 ans, mais le dirigeant ougandais soutient de fait le camp du président, soutien qu'il lui a réaffirmé avant de quitter Djouba. Florence Mietto, une capitale quadrillée de militaires ces derniers jours.
Des véhicules blindés et des milliers de soldats ougandais ont sécurisé l'aéroport ainsi que les axes stratégiques de Djouba pendant la visite de Yoweri Museveni. Les habitants ont ainsi pour la première fois pris la mesure de la présence militaire ougandaise au Soudan du Sud aux côtés de Salva Kiir, une présence faisant craindre une aggravation du conflit. Yoweri Museveni est l'un des garants de l'accord de paix de 2018, signé principalement par Salva Kiir et son rival Riek Machar. Mais le président ougandais n'a semble-t-il pas jugé souhaitable de rencontrer le vice-président Riek Machar, qui est toujours en résidence surveillée malgré les nombreux appels à sa libération et à la restauration d'un dialogue pour désamorcer la crise. Peu de détails ont été communiqués sur le contenu des échanges entre Yoweri Museveni et Salva Kiir, puis avec le groupe des sages de l'Union africaine et enfin avec divers partis politiques sud-soudanais. Évoqué par la présidence sud-soudanaise sur Facebook, la présence de représentants du parti de Riek Machar lors de cette dernière rencontre est contestée. Joint par RFI, un porte porte-parole du parti du vice-président dit qu'aucun de ses membres n'a été autorisé à rencontrer Yoweri Museveni. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Les sages de l'UA qui sont encore dans le pays aujourd'hui, ils vont tenter une fois encore de s'entretenir avec Riek Machar. Un regain de tensions armées en République démocratique du Congo dans la province du Kwilu, cette fois limitrophe de Kinshasa. Depuis 4 jours, les FARDC se sont lancés sur la trace d'un groupe de miliciens Mobondo, suspecté d'avoir massacré plus d'une dizaine de civils dans une ferme au début de la semaine. Correspondance à Kinshasa, Pauline Azidi.
Depuis mardi dernier, l'armée congolaise ratisse la zone du côté du territoire de Bagata. Objectif retrouver les miliciens suspectés d'avoir tué une dizaine de civils ce 1er avril lors d'un raid mené dans la nuit sur une ferme près du village de Mayala. Les forces de l'ordre sont intervenues et des combats ont fait plusieurs morts côté assaillants et un décès dans les rangs des FARDC. Pour le porte-parole de l'armée dans la zone, les auteurs de cette attaque font partie d'un groupe de Mobondo qui refuse de déposer les armes alors que une partie des rebelles ont accepté d'entrer dans le processus de désarmement. Actuellement, une délégation de l'État congolais mène une mission de sensibilisation dans le Grand Bandundu. Elle essaie de convaincre les jeunes de ne pas rejoindre les milices, explique le capitaine Anthony. Du côté de la société civile, on s'inquiète de cette nouvelle montée de violence. Un responsable explique que si l'armée est bien visible dans certaines localités, d'autres sont laissés à leur propre sort. C'est pourquoi les atrocités continuent, estime-t-il, des attaques qui ont provoqué ces dernières semaines de nouveaux déplacements de population dans la zone. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Kinshasa, où il est 4h36, même heure à N'Djamena, le Tchad. Ça fait juste un mois aujourd'hui que le journaliste Olivier Monodji a été arrêté, le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, par ailleurs correspondant de RFI, mis en cause notamment pour intelligence avec une puissance étrangère. Lui et 2 autres journalistes se trouvent en détention provisoire. Reporters sans frontières dénonce ce matin ce régime qui se prolonge. RSF appelle à la libération de ces 3 professionnels. Sadi Boumarong dirige le bureau Afrique subsaharienne de l'ONG.
Les charges sont très lourdes et cela sort carrément de l'ordinaire que des journalistes soient inculpés pour intelligence avec l'ennemi, attentat contre les institutions et complot. Et pour le cas d'Olivier Monodji, de son confrère Gekidata et de Mohamed Saleh, pour nous il est important de les remettre en liberté. Ils ne représentent absolument pas de menace. Ce sont des journalistes. Ils ne vont pas quitter le pays. Donc, il est important que les autorités, à défaut d'abandonner toutes les charges, c'est ce que nous leur demandons d'abord. Nous leur demandons d'abord cela. À défaut de faire cela, il est important de libérer Olivier, Liam et Mohamed. L'audition, si les autorités le souhaitent, pourrait continuer, mais nous sommes toujours convaincus en tant que RSF que c'est un dossier quand même qui est vide et que les journalistes n'auraient jamais dû être arrêtés le 5 mars dernier.
Sadi Boumarong de Reporters sans frontières, propos recueillis par Amélie Tullet. Du sport et du basket, ce matin, l'ouverture aujourd'hui de la conférence Kalahari. C'est l'une des 3 phases de groupe de la BAL, la Basketball Africa League. 15h temps universel, le stade malien se frottera aux Rivers Hoopers du Nigeria. Il y a 4 équipes dans cette conférence Kalahari. Chacune jouera une rencontre aller-retour face aux 3 autres. Et Mathias Reynal a fait traîner son micro aux abords du parquet qui crisse pour l'entraînement de ce stade malien.
Logo rouge et bleu de la BAL, la Basketball Africa League, écran géant. Dans la salle couverte du complexe sportif Moulay Abdallah, flotte comme un air de NBA. Sur le parquet entre joueurs de la même équipe, on ne se fait pas de cadeaux à quelques heures du début de la conférence Kalahari.
C'est notre dernier entraînement, il faut essayer de mettre les paquets juste pour bien débuter le tournoi.
À seulement 21 ans, Mahamane Koulibaly est le capitaine du stade malien.
L'objectif déjà c'est de pouvoir gagner notre ticket. L'un des 2 tickets de la qualification pour les playoffs, on va disputer nos matchs très concentrés.
Depuis 1 an, Boubacar Kanouté est le coach du stade malien. L'année dernière, il a préféré ne pas participer à la BAL pour mieux préparer l'édition 2025.
Vous venez de voir l'entraînement, c'était agressif. L'équipe se prépare sereinement depuis Bamako. On est des outsiders, on est tout le temps des outsiders. On a une équipe très jeune, mais je pense que on va créer la surprise.
Si le stade malien est un outsider, ce n'est pas un inconnu. En 2023, il avait fini 3e de la Basketball Africa League. Mathias Reynal, de retour de Rabat, RFI.
Un premier match donc à 15h temps universel face aux Rivers Hoopers. Antoine Grenier est avec nous dans 1 heure pour toute l'actualité sportive au complet. C'est un Mali en deuil qui nous attend maintenant, celui qui vient de perdre Amadou Bagayoko, la moitié d'un duo connu dans le monde entier, celui qu'il formait avec son épouse Mariam. Il est mort hier à 70 ans dans un hôpital de Bamako. Ça fait certes 20 ans que le monde entier danse sur le dimanche à Bamako, le fameux jour des mariages. Mais Amadou Bagayoko, c'était une vie entière consacrée à la musique, que nous raconte Carmen Lunsman.
Il est né un dimanche à Bamako en 1954. 50 ans après, c'est devenu la chanson-titre d'un album produit avec Mano Chao qui propulse Amadou Bagayoko sur le devant de la scène internationale. Ce succès planétaire n'aurait pas été possible sans Mariam Doumbia. Le couple s'est rencontré dans les années 70 à l'Institut des Jeunes Aveugles. Elle a 18 ans, lui 21 et un bagage instrumental important, ayant commencé les percussions à l'âge de 2 ans avant de se tourner vers l'harmonica, la flûte et finalement la guitare, son instrument de prédilection. Les deux aveugles passionnés de musique deviennent inséparables sur scène et dans la ville. Ils se marient en 1980 et deviennent Amadou et Mariam. Après un long début de carrière en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire, le duo s'impose avec Mon amour, ma chérie à la fin des années 90, puis enchaîne les tournées, les collaborations et les distinctions dans deux victoires de la musique. Le dernier concert marquant de ces ambassadeurs de la culture malienne et des causes humanitaires est celui de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris l'année dernière. Ils y interprètent « Je suis venu te dire que je m'en vais » de Serge Gainsbourg, une performance qui restera gravée dans les mémoires.
Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais.
Verlaine, son vent mauvais, Amadou Bagayoko mort hier à 70 ans. Merci Carmen Lunsman. Bamako, il est 3h42.
Afrique Matin sur RFI.
Et la suite, c'est l'hommage rendu enfin à l'entartete Kunst, l'art dégénéré, ou en tout cas présenté comme tel par le régime des nazis. L'appel est le combat de 20 ans d'un sénateur gabonais, Jean-Elvis Ebangondo, qui demande aux 8 candidats à la présidentielle de s'engager contre les crimes rituels qui visent encore des dizaines d'enfants chaque année. On appelle aussi dans 5 minutes les confrères de Jeune Afrique, comme tous les week-ends. Reportage de la rédaction, c'est d'abord en Tunisie, avec les oubliés volontaires des politiques très dures contre les ressortissants subsahariens. Depuis les saillies racistes du président Saïed, il y a 2 ans, la situation de ces populations ultra précaires est devenue plus dure encore. Les contrôles administratifs sont devenus beaucoup plus stricts, notamment dans le monde du travail, de sorte que plus personne n'ose embaucher pour de bon ces ressortissants. Le choix qu'il leur reste, c'est entre la mendicité ou des boulots payés à la tâche au jour le jour, et les organisations qui leur viennent en aide s'alarment de cette précarisation croissante. Reportage à Tunis, Lilia Blaise.
À Tunis, dans un quartier de la banlieue nord, plusieurs migrants subsahariens attendent sur le trottoir au bord de la route. Selon les besoins en petit boulot, les clients viennent à ce rond-point et embauchent à la journée les premiers à se présenter, comme l'explique Samy, un migrant malien de 16 ans.
On attend du travail ici, travail des chantiers, travail des jardins.
Par exemple, aujourd'hui, vous êtes là depuis quelle heure ?
Depuis à 6 heures.
6 heures du matin ?
Ouais.
Il est 10 heures et Samy attend encore. Ce phénomène est visible dans plusieurs endroits de la capitale, les migrants n'étant plus embauchés dans les emplois stables à cause des contrôles à répétition des autorités. Une situation de plus en plus difficile pour Abdallah, 25 ans et ivoirien.
Il y a beaucoup de problèmes parce que pour aller travailler même, ça fait peine entièrement.
Oui.
Parce qu'on n'a pas de papier, il y a la police, épée, t'as arrêté pour en prison.
Samy, 27 ans, migrant camerounais, est venu il y a 7 mois à Tunis pensant trouver du travail dans son domaine, la réparation d'objets électroniques. Il se retrouve à faire le berbécha, le collecteur de plastique. Il fouille dans les poubelles pour trouver des bouteilles à vendre ensuite à des dépôts de recyclage.
Quand je suis arrivé et que je suis allé dans des magasins d'électronique pour du travail, on m'a dit que ce n'était pas possible de m'embaucher. Du coup, je ne pouvais pas rien faire et rester à la maison. Je devais payer le loyer, ma nourriture. Alors je suis allé dans la rue et j'ai commencé ce travail.
Pour le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, une ONG tunisienne, la précarité des migrants est de plus en plus visible dans l'espace public. Elle a atteint un niveau alarmant, selon Ramdan Ben Amor, porte-parole de l'ONG.
Maintenant, c'est remarquable le nombre des mamans avec accompagnées de leurs enfants sur l'espace public, parce que ces mamans-là n'ont pas la possibilité ni de travailler et ils sont obligés à sortir dans l'espace public pour chercher quelques moyens à vivre ou bien d'aide de la part des gens.
Il attribue cette mendicité de plus en plus visible à la criminalisation actuelle par les autorités des organisations de la société civile qui viennent en aide aux migrants. Très peu d'ONG peuvent encore travailler sur le terrain. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Vous retrouvez et vous réécoutez ce reportage quand vous le voulez sur notre application dédiée RFI Pure Radio, 3h45 en temps universel.
RFI, toute l'actualité. Édouard Dupenoit.
Les grands titres de ce samedi 5 avril 2025, c'est la guerre commerciale lancée par Donald Trump qui continue de faire plonger les marchés financiers. 6% pour Wall Street à la clôture après une débâcle en Asie et en Europe. La bourse de Paris dévisse, elle aussi, 4,26%. Elle efface tous ses gains de l'année. Les bourses de Francfort et de Londres ont chuté toutes les deux. Milan aussi à plus de 6,5%. L'exécutif américain qui menace ses partenaires commerciaux de surtaxes encore plus lourdes en cas de riposte. Pékin annonce par exemple des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains dans 5 jours. L'armée israélienne qui lance une nouvelle offensive au sol à Gazaville, elle a fait au moins 30 morts dès hier selon la défense civile. Ces opérations créent une situation extrêmement dangereuse pour les otages à Gaza, avertit le Hamas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou affirme accentuer la pression militaire sur le mouvement islamiste palestinien pour arracher la libération des captifs toujours retenus dans l'enclave.
Afrique Matin sur RFI.
Et notre entretien de la semaine avec les confrères de Jeune Afrique, le magazine qui propose un long dossier sur les dernières décisions du régime nigérien qui est allé plus loin encore que les deux autres membres de l'Alliance des États du Sahel. François Soudan, directeur de la rédaction de JA, répond à Catherine Potet.
À la une de Jeune Afrique cette semaine, le Niger. Il y a quelques jours, vous le savez, le Niger a promulgué une charte de la refondation qui assure les militaires au pouvoir d'une certaine longévité. Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
Pour Jeune Afrique, cette charte fait office d'exemple pour le Burkina et le Mali, les partenaires du Niger au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel.
Alors, le Niger, c'est le dernier venu dans la liste des coups d'État militaires au Sahel, mais il est le pays qui, en moins de 2 ans, est parvenu à institutionnaliser le modèle, je dirais, putscho-souverainiste le plus radical. La charte nationale qui a été promulguée le 26 mars par le général Tiani est à ce sujet tout à fait éclairante. D'abord, de facto, il n'y a plus d'élections. En fonction du mandat exceptionnel qu'il s'est octroyé, le général Tiani a été proclamé président pour une période de 5 ans renouvelable indéfiniment, puisque son extension dépendra non pas d'élections, mais du bon vouloir de la junte en fonction de sa propre évaluation de la situation, notamment sécuritaire. Même si là aussi, il n'existe pas de calendrier électoral défini, le Mali, le Burkina ne sont pas encore allés aussi loin. Ensuite, il n'y a plus de partis politiques. Certes, les partis sont interdits d'activité au Burkina, ils ont été réautorisés sous condition l'an dernier au Mali, mais au Niger, ils ont été purement et simplement dissous. Donc, plus d'élections, plus de partis, un président qualifié par ses Thierry Ferrer de héros national, de militaire providentiel, de défenseur protecteur du peuple. Tout ça rappelle beaucoup le modèle des dynamiques qui prévalait au Niger jusqu'à la fin des années 80, Catherine, un bond de 35 ans en arrière.
Oui, un modèle qui pèse aussi sur la société civile nigérienne.
Oui, le régime nigérien est là aussi le pays le plus avancé de l'AES dans l'entreprise, je dirais, de satellisation de la société civile, avec la division de cette dernière en 2 camps, les patriotes d'une part, les apatrides de l'autre. Le CNSP, la junte au pouvoir, qui considère la politique comme une sorte de guerre larvée, a créé un fichier des personnes impliquées dans des activités de terrorisme dont le spectre est extrêmement large, puisqu'il criminalise le simple partage d'informations décrétées comme sensibles sur les réseaux sociaux et même le fait de communiquer avec un pays tiers considéré comme ennemi, en particulier la France. Et puis Catherine, et même si une 50aine de détenus depuis le putsch de juillet 2023 ont été libérés le 1er avril, impossible d'oublier que Mohamed Bazoum, son épouse, sont toujours séquestrés depuis plus de 20 mois, tout comme l'ex-ministre de l'Intérieur à Massoulé, et qu'une 20aine d'opposants ont été déchus leur nationalité, ce qui là aussi est une première dans la région.
De là à parler d'une révolution réactionnaire actuellement à l'œuvre au Sahel, il n'y a qu'un pas que vous franchissez sans hésiter, François Soudan.
Alors c'est un qualifiant que j'emprunte au politologue nigérien Raman Idrissa et qui me paraît très juste. Quand le capitaine Ibrahim Traoré dit « nous sommes en révolution, nous ne sommes pas en démocratie », il résume très bien les choses. C'est une révolution dont les auteurs, les militaires, habillent leur captation du pouvoir et de ses ressources par un langage anti-impérialiste et qui s'appuie non pas sur les forces progressistes de la société, mais sur les couches les plus conservatrices et réactionnaires, qu'elles soient coutumières, traditionnalistes ou wahhabites, salafistes. Le progrès sociétal, la lutte contre les castes, pour le droit des femmes, des minorités ethniques, tout ce qui concerne la santé reproductive, par exemple l'environnement, tout cela est complètement délaissé, voire rejeté, au nom du retour aux valeurs socioculturelles traditionnelles. Les dialogues nationaux qui se sont déroulés dans les trois pays de l'AES sont en quelque sorte des répliques inversées des conférences nationales des années 90. Là où ces dernières avaient débouché sur la fin des dictatures et l'instauration du multipartisme, leur réplique actuelle consacre le retour aux États de non-droit. Après tout, Catherine, on peut voir ça comme une sorte d'inclusion dans la mondialisation version Trump ou Poutine. Eux non plus n'ont que faire des valeurs libérales et humanistes.
Merci François Soudan. Le Niger à la une de Jeune Afrique, à retrouver sur jeuneafrique.com.
Et merci à vous Catherine Potet, vous revenez tout à l'heure pour les revues de presse. L'invité Afrique de la rédaction ce matin s'exprime à une semaine de l'élection présidentielle au Gabon, mais il n'est pas candidat au scrutin. Jean-Elvis Ebangondo est sénateur et il veut porter un message aux 8 postulants pour leur demander, quel que soit le vainqueur, de s'engager sur un sujet tabou, les crimes rituels qui visent les enfants. Lui-même est concerné au premier chef. Jean-Elvis Ebangondo a perdu son fils dans des circonstances atroces il y a 20 ans. On estime qu'une centaine d'enfants seraient assassinés de la sorte chaque année à travers le Gabon. Jean-Elvis Ebangondo répond à Christophe Boisbouvier.
Monsieur le sénateur Jean-Elvis Ebangondo, bonjour.
Bonjour monsieur.
Votre combat a commencé ce terrible jour de 2005 où le corps mutilé de votre enfant a été retrouvé sur le bord de mer à Libreville. Et finalement, votre voix a fini par être entendue par les Gabonais. C'était en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé?
Que s'est-il passé? J'ai perdu mon enfant et je me suis engagé à mener un combat humanitaire, c'est-à-dire défendre les vies humaines, le respect de la dignité humaine.
Votre enfant qui avait 12 ans.
Mon enfant était assassiné, j'étais au bord de mer et jusqu'à présent, le commanditaire n'a jamais été retrouvé et le dossier a été classé sans suite.
Et en 2020, 15 ans plus tard, quelque chose a quand même bougé dans votre pays.
Justement, à force de travailler, les autorités ont pris ce dossier au sérieux. Nous avons modifié notre code pénal. On a inséré le thème « crime avec prélèvement d'organes » dans notre code pénal du mois de juin 2020.
Ce qui a permis aux magistrats gabonais de poursuivre les auteurs de ces crimes rituels, c'est ça?
Oui, un haut magistrat, M. Eddy Minan, il a publié un livre. Il y a d'autres qui arrivent maintenant à arrêter les bourreaux. Donc, je n'ai pas prêché dans le désert et je suis très content parce que le problème est pris au sérieux au niveau de la magistrature suprême actuellement.
Donc, l'auteur de l'assassinat de votre enfant n'a jamais été retrouvé. En revanche, d'autres criminels ont été arrêtés et jugés?
Certains, mais je vais parler des bourreaux et non les commanditaires. Le seul commanditaire qui a été arrêté, c'était un sénateur de Kango. Je crois que c'était dans les années 2006. Actuellement, il n'est plus dans notre monde. Il est parti, il est mort.
Mais plusieurs bourreaux, eux, ont été arrêtés.
Les bourreaux sont toujours arrêtés, mais étant donné que le combat que je mène actuellement, c'est que au niveau de notre code pénal, on insère le terme crime rituel. C'est le mot qui passe le plus au niveau du peuple gabonais. Il faut mobiliser la classe religieuse, les étudiants et tout le monde afin que nous parlions le même langage. Le terme crime rituel est reconnu au niveau des Nations Unies.
Est-ce que les confessions religieuses, est-ce que les catholiques, les musulmans, les protestants commencent à se mobiliser contre ce fléau?
Oui, depuis 2013, nous avons organisé une grande marche pacifique. Nous avons remis au chef de l'État, à l'époque, un mémorandum qui a été signé par toutes ces confessions religieuses, catholiques, protestants, musulmans, sans oublier les églises de réveil. Nous tous, nous avons décrété même la journée du 28 décembre, journée à la mémoire de toutes les personnes, disons les enfants, victimes de ce fléau qui dérange notre pays.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a autant de crimes rituels qu'il y a 20 ans?
Au niveau des statistiques, ça baisse. Mais le fond du problème actuel, c'est qu'on nous parle de l'inclusivité, parce qu'avec les anciens mélangés aux nouveaux, c'est un peu le désordre. Et voilà pourquoi nous assistons encore aux enlèvements, aux disparitions forcées et les crimes rituels peuvent revenir.
Est-ce à dire que vous craignez que les caciques de l'ancien régime reviennent au pouvoir à la faveur de cette campagne électorale?
C'est pas moi, mais l'ensemble des Gabonais. Samedi passé, il y a eu une manifestation. La population n'est pas pour le placement des anciens dignitaires du régime pour les campagnes électorales.
Et là, vous parlez du retour des caciques de l'ancien parti au pouvoir.
Justement, les Gabonais ne voient pas ça d'un bon œil parce qu'on dit qu'on en a déjà marre.
Alors, il y a 8 candidats pour la présidentielle du 12 avril. Qu'est-ce que vous attendez de ces candidats pendant la campagne?
Ce que j'attends de ces candidats, c'est vraiment le changement. Les Gabonais veulent le changement. Le changement au niveau des mentalités, le changement au niveau des structures qui seront mises en place, le changement à tous les niveaux. Donc, j'aimerais voir parmi tous les candidats comme priorité dans leur projet de société le respect des droits de l'homme.
Et sur la question précise des crimes rituels, qu'est-ce que vous attendez de ces candidats?
La libération de la justice, premier point. La lutte contre l'impunité, deuxième point. Une justice pour tous.
Monsieur le sénateur Jean-Elvis Ebang-Ondo, je vous remercie.
Jean-Elvis Ebang-Ondo qui est, je l'ajoute, président de l'association de lutte aussi contre les crimes rituels au Gabon. Entretien mené par Christophe Boisbouvier. (Musique) 3h56, tout juste en temps universel, dernière escale de cette demi-heure d'info au musée Picasso à Paris, qui rend hommage à ce que le régime nazi appelait l'art dégénéré, ces 1400 et quelques artistes du milieu du XXe siècle, que le Troisième Reich a banni de ses canons de l'art officiel. Les œuvres ont été confisquées, vandalisées, moquées, détruites, ou bien plus prosaïquement revendues, mais certaines ont été sauvées de l'oubli, et le musée Picasso en expose une soixantaine pour comprendre un peu mieux ce qui a motivé la haine aveugle de ce régime dictatorial. Visite avec Carmen Lunsman.
Des idiots, des sauvages, des criminels et surtout une menace pour la pureté allemande. C'est ainsi que le régime nazi qualifiait les artistes de l'avant-garde européenne, dont Vincent Van Gogh, Marc Chagall, Paul Klee et Pablo Picasso. Artistes dégénérés par excellence, selon les soi-disant critères de l'esthétique nazie. Johann Poplar, commissaire de cette exposition élaborée par le musée Picasso.
Ce qui est fascinant et étonnant, c'est qu'il n'y a pas de critères. Tous les mouvements de l'art moderne sont rangés dans cette catégorie un peu fourre-tout d'art dégénéré. En tout cas, pas de critères dans le sujet. Et très flou et très large dans les formes d'esthétique. Dans l'exposition, on montre une abstraction constructiviste extrêmement belle, mais très rigoureuse. Et puis, en même temps, on a des natures mortes, des paysages.
Ou encore ces fragments de sculptures miraculeusement réapparus en 2010 lors de fouilles archéologiques sur un chantier de métro à Berlin. Le buste amputé d'une femme enceinte en terre cuite ouvre l'exposition, flanqué d'un mur où sont affichés 1400 noms. Les noms des artistes interdits d'exercer, d'exposer, d'enseigner, bannis, menacés, voire assassinés par les autorités nazies. Ce bannissement de plus en plus systématique des œuvres expressionnistes, cubistes, dadaïstes, d'inspiration africaine ou océanienne, culmine dans une exposition en 1937 à Munich, dans le sud de l'Allemagne.
Il faudrait peut-être moins parler d'exposition pour l'art dégénéré que d'exhibition. Ce qu'essayent de faire les nazis, c'est une sorte de foi au monstre devant lequel le public défilerait en s'en offusquant ou en riant.
Dans une mise en scène grotesque, les tableaux sont collés les uns aux autres, parfois présentés à l'envers et affublés de slogans de haine. Ainsi, 700 des plus grands chefs-d'œuvre de l'art moderne sont dévoilés aux yeux de 2 millions de visiteurs, offrant parfois l'occasion de les contempler pour la dernière fois. Car sur les plus de 20 000 pièces confisquées dans les musées allemands sous l'œil du ministre de l'Éducation du peuple et de la propagande Joseph Goebbels, environ 5000 ont été détruites. D'autres ont servi les intérêts du Führer, illustrant tous les paradoxes de cette diffamation d'un art jugé nocif qui se révèle tout de même utile pour financer le régime hitlérien. C'est le thème de la dernière salle de l'exposition consacrée aux ventes des œuvres à l'étranger, où elles ont survécu jusqu'à nos jours, dont 59 sont à admirer au musée Picasso.
À admirer d'ailleurs jusqu'au 25 mai, Carmen Lunsman. Merci beaucoup. Merci également à Thierry Le Saint derrière la vitre pour réaliser cette demi-heure d'information africaine. Je passe un salut particulier ce matin à Valentin Bossa. Vous nous écoutez depuis votre enfance, dites-vous, depuis Kisangani en République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité. Vous nous avez écrit sur notre adresse afriquematin@rfi.fr. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde, le journal dans 30 secondes.
100% création, Maria Afonso.
La 19e édition des Journées européennes des métiers d'art permet au grand public de rencontrer des artisans d'art. Ce dimanche, découvrez avec 100% création les coulisses de ces métiers souvent méconnus, comme celui de Catherine Roman, rotinière et vannière d'art. Retrouvez-nous à 4h53, 6h54 et 12h54, temps universel sur RFI.